Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide les lundis à 13h et le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
Bonjour, pour la première fois en 2020, Aristide a le plaisir de vous saluer, a le plaisir de vous adresser ses vœux. Alors les vœux de ci et de ça, de santé, de réussite, etc. Et puis, dans le domaine du vin, le vœu que vous puissiez faire de belles découvertes, des belles découvertes assez proches. Et puis, le vœu aussi que vous puissiez goûter à l'instant présent quand vous avez du bon vin dans votre verre et avoir ainsi une sorte de moment de flottaison ou d'extase, comme vous voulez. Voilà, alors tous mes vœux dans ce domaine. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir brièvement d'abord sur une émission antérieure, celle qui avait été enregistrée avec Monsieur Chevalet, qui est donc le producteur des vins mousseux genevois, pour le compte de ses collègues vignerons. Si j'y reviens, c'est parce que c'est souvent hors micro que se disent les choses les plus intéressantes. On traite le sujet, voilà, on est un peu ready devant le micro, et puis après, hors micro, c'est les anecdotes qui fusent. Alors, une anecdote. Eh bien, concernant le champagne de l'an 2000. Alors évidemment, l'an 2000, c'était un instant tout à fait magique, hein, le passage d'un millénaire à l'autre. Et tout le monde se faisait un plaisir ou un devoir, peut-être même, de boire du champagne à l'instant fatidique. Alors, la fête s'est organisée bien longtemps à l'avance. Et les revendeurs genevois, et d'ailleurs, ont eu peur de manquer de champagne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Très longtemps à l'avance, des fois plusieurs années, ils ont stocké du champagne dans des endroits absolument inadéquats, par exemple dans des garages exposés au soleil, donc des immenses stocks, des piles de carton comme ça. Et puis, forcément, le vin s'est mal conservé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le 31 décembre 1999, à minuit, la plupart des champagnes ont bu du champagne, c'est le mot de mon interlocuteur, dégueulasse. Donc, si on veut un bon vin mousseux, il faut qu'il soit stocké dans des conditions de fraîcheur, d'obscurité exemplaire. Et puis, voilà, dans ces cas, le champagne peut être net. Voilà. Alors, il faut pas boire du champagne pour boire du champagne. Il faut boire du champagne pour autant que l'on soit sûr de son excellence. Une deuxième anecdote. Mais je reviens quand même sur le cas du fameux Dom Pérignon. Donc, dans cette émission, nous avions bien dit que Dom Pérignon, malgré tous ses mérites, et même si le champagne Dom Pérignon est une qualité tout à fait remarquable, donc Dom Pérignon n'est aucunement l'inventeur du champagne, puisque matériellement, il n'en avait pas la possibilité à l'époque. Et alors, j'aimerais insister sur le côté mythique du champagne. Le champagne, c'est un mythe. Alors voilà qu'il y a pas mal d'années, il y a eu en Italie un grand concours qui comparait les meilleurs vins mousseux, les meilleurs champagnes du monde. Alors évidemment, ces messieurs, grands producteurs prestigieux de champagne, s'y sont précipités. Et voilà tipa qu'un genevois s'est infiltré. Ce genevois, c'est Bernard Bosso, qui était d'ailleurs vigneron en France, qui s'est établi à Dardagny, qui était longtemps à la tête, œnologiquement, du domaine de la Planta. Et alors, dégustation à l'aveugle, naturellement. Et voilà-t-il pas que son champagne, au nez à la barbe de tout le monde, est sorti en tête de tous les vins mousseux du monde. Alors, si je dis ceci, je m'en régale, naturellement, c'est parce que je peux vous assurer que à Genève, et pas bien loin, on trouve une qualité magnifique. Et je vous redis peut-être aussi une petite anecdote que j'avais recueillie à Beaune il y a quelque temps. Un grand sommelier, grand professionnel, se tromper de temps en temps de bouteille quand on lui demandait du champagne. Il versait du crémant, par étourderie, encore une fois, pas par malice. Et m'a-t-il dit, jamais aucun client ne s'est aperçu qu'il ne s'agissait pas de champagne. Et j'ai envie de dire... rideau. Eh bien non, avant de tirer le rideau pour une petite pause, une citation qui me plaît bien. Elle est du grand voyageur qu'est Nicolas Bouvier. Et voilà ce qu'il dit, ou qu'il écrit. « Avez-vous déjà bu une bonne bouteille avec un connaisseur ? C'est un supplice. » Pourquoi sa pensée est facile à interpréter ? Eh bien, c'est que le grand connaisseur commence inévitablement à discourir sur la qualité du vin, à vous donner un véritable cours, pédantissime, et Nicolas Bouvier trouve ça insupportable qu'on laisse les gens simplement au bonheur de déguster un vin qui les enchante, qui les inspire, et voilà, ça suffit, pas besoin de discours, vous avez un bon vin, il suffit à lui-même.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide les lundis à 13h et le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
Aristide, qui vous entretient de la tenue de la vigne actuellement, vous vous demandez peut-être que font les vignerons actuellement, s'ils ont eu 3 voire 4 mois de vacances, s'ils sont à ski, s'ils sont aux Seychelles ou à l'île Maurice, pas du tout. Alors, les temps actuels sont consacrés à la taille. C'est une tâche tout à fait redoutable, dans des conditions parfois difficiles. Cette année, ça a l'air bien de bien se présenter. Mais voilà, ce travail obscur, fastidieux, dure maintenant. Et puis, j'aimerais vous donner un témoignage personnel. Il y a quelque temps, j'ai eu le plaisir de manger chez une excellente vigneronne. Et voilà-t-il pas qu'en cours de repas, elle se lève et quitte la table pour aller dispenser des soins à son vin. Il y avait une cuve dont l'évolution ne la satisfaisait pas exactement. Je crois qu'elle devait rajouter des levures. Donc elle a abandonné le repas parce que l'urgence, c'était une toute priorité. Donc voilà, imaginez-vous bien que maintenant, pendant des mois, les vignerons sont comme un médecin au chevet de leur vin, et donc il y aura un aboutissement seulement quand commencera la mise en bouteille. Les blancs, ça sera dans environ 2 mois. Les rouges, c'est beaucoup plus long à s'élaborer complètement. Voilà. Donc sachez bien que nos vignerons sont à l'œuvre maintenant de manière extrêmement méticuleuse. Alors, ce dont je voulais vous parler, c'est un sujet dont vous aurez eu peut-être connaissance au travers des journaux, et nous avons lu il y a quelque temps dans la Tribune de Genève que des députés de 3 partis militaient auprès du Conseil fédéral pour réduire l'importation des vins étrangers. C'est un sujet que nous avons déjà fait mieux qu'effleurer avec Willy Cretigny, donc celui qui embouche exactement la même trompette. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que ce ne sont pas des partis en tant que tels, mais des députés relativement isolés qui veulent limiter les quotas d'importation. Alors, ce qu'ils veulent, c'est limiter de 50% les importations. Alors, quand on dit 50%, boum, c'est absolument impossible parce que cela contreviendrait à des traités internationaux. Mais toujours est-il que la question de réduire les importations se pose réellement. Alors, à titre personnel, je ne suis pas versé dans la politique, mais j'aimerais quand même interpeller ici quelques personnes. Les initiants de cette démarche sont des gens de l'UDC, des gens du MCG et du PDC. Alors comment interpréter cela? Bon, UDC, MCG, c'est des partis qui essayent de s'ancrer dans une tradition et qui sont, je ne dirais pas forcément nationalistes, mais quand même attachés à tout ce qui est terroir, racine. Il ne faut pas oublier que l'UDC était autrefois le parti agrarien de M. Wallon. Donc voilà, c'est toute une tradition. PDC, bon, très bien, ils adhèrent. Que le PLR ne se soit pas lancé dans cette démarche, on peut comprendre, parce que j'y vois des partisans du libre-échange, de la concurrence. Bon, voilà. Les socialistes muets dans l'affaire, je comprends. Mais ceux que j'interpelle vivement, ce sont les écologistes. Les écologistes, eux, prônent les circuits courts. Ils prônent une agriculture correcte. Ils savent très bien que les marchandises qui viennent du tiers-monde sont produites dans d'autres conditions, beaucoup moins sociales, beaucoup moins écologiques, que ces marchandises nous proviennent de véritables usines à vin et que le transport non plus de ces marchandises n'est pas davantage écologique. Donc pour moi, c'est un mystère. Je me réjouis de pouvoir inviter à cette émission un écolo qui nous dira ce qu'il en pense. J'aurais trouvé logique que les écologiques se joignent à ceci. Voilà. Alors, le débat peut peut-être créer quelques passions, et pour cette raison, je vais m'efforcer de vous donner des chiffres. J'ai enquêté. après la pause.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide les lundis à 13h et le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
Troisième partie de Nectar et pour aujourd'hui, Aristide va nous parler chiffres.
Voilà, parler chiffres au sujet de l'importation des vins suisses. Est-ce qu'elle se fait dans des conditions loyales, normales, conformes aux traités internationaux ou est-ce qu'il convient d'intervenir pour les limiter? Alors j'ai enquêté. D'abord, un journal qui est extrêmement au fait de l'évolution du commerce, c'est la Schweizerische Weinzeitung. C'est une publication qui existe depuis exactement 124 ans et qui peut donner des renseignements d'une précision extrême. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les importations de rouge depuis pas mal d'années sont en baisse. Elles sont en baisse. Ils se consomment toujours beaucoup de rouge étranger, mais actuellement, ils s'importent 121 millions de litres de rouge par année. Et les importations de blanc, curieusement, parce que la Suisse est un pays qui produit beaucoup de vin blanc, je dirais peut-être même surtout du vin blanc, eh bien les importations de vin blanc étranger sont à la hausse et elles représentent actuellement 35 millions de litres. Alors, on peut se demander ces chiffres comme ça, tout nus, ce qu'ils signifient. Eh bien, malgré ces chiffres, donc 35 millions de blancs et 121 millions de rouges, le quota de 158 millions, qui est fixé depuis une vingtaine d'années, n'est pas atteint. Il s'en faut de très très peu, c'est-à-dire que si on additionne 121 et 35, ça fait 156. Donc, 2 millions de litres de vin que l'on pourrait importer ne le sont malgré tout pas. Alors, une considération importante qui s'invite dans ce sujet, c'est la consommation suisse. Est-ce que la consommation en somme est à la hausse ou est-elle à la baisse? Vous vous rappelez peut-être que dans une émission ancienne, nous avions dit que les Genevois buvaient énormément et même beaucoup plus qu'aujourd'hui, il y a deux siècles. Voilà. Eh bien, la consommation suisse en matière de vin est actuellement à la baisse. C'est-à-dire que chaque Suisse, en moyenne bien entendu, donc en incluant par exemple les enfants, les abstinents, etc., chaque Suisse boit par année 35 litres de vin. Alors on divise par 365 et on s'apercevra que le Suisse, en moyenne, boit un décilitre de vin par jour. Donc, alors évidemment, ça peut réjouir les milieux qui combattent l'alcoolisme, mais simplement, il faut dire, en prenant du recul, que nous nous trouvons dans des proportions qui sont extrêmement sages. Alors, en somme, qui importe? Il y a quelques gros importateurs. Dans l'affaire, la COP importe 34 millions de litres. Denner, 30 millions. À eux deux, 64 millions. Et les autres sont loin derrière, il y a beaucoup d'importateurs mineurs. Peut-être qu'il vous intéressera de savoir ce qu'importent les discounts étrangers. Lidl, 5 millions. Aldi, 5 millions. Donc on peut dire en somme qu'une bouteille de vin étranger sur 5 est importée par la COP. Alors, tout ceci fonde l'argumentation de ceux qui souhaitent que les importations soit réduite de manière tout à fait drastique, mais le 50% que veulent nos aimables militants genevois est totalement, totalement illusoire. Alors maintenant, nous allons nous tourner vers Unitaire, qui est une publication de l'agriculture, qui a son siège à Lausanne. Et Unitaire, donc, s'est tourné vers le Conseil fédéral pour obtenir une réduction, non pas de 50%, mais une réduction de 158 millions à 130 millions. Alors voilà qui est déjà beaucoup mieux calculé. Alors, à part cette réduction, il y a d'autres revendications. Donc, Unitaire demande ou exige même que les taxes soient augmentées pour une saine concurrence. Une autre demande, c'est que des quotas soient attribués selon prise en charge des marchandises indigènes, c'est-à-dire un commerce, par exemple un discount, qui n'achèterait pas de vin suisse et ne les vendrait pas, et bien qu'il soit pénalisé par une réduction de son quota. Et alors, comme les vignerons suisses n'arrivent pas toujours à vendre à mesure leur production, et bien Unitaire demande également une aide au stockage. Donc voilà la revendication qui semble bien construite, 130 millions au lieu de 170, augmenter les taxes, bon, pourquoi pas, c'est en tout cas faisable, des quotas attribués selon la vente de vin indigène, et enfin l'aide au stockage. Ces messieurs se sont tournés vers le Conseil fédéral, et le Conseil fédéral argumente, contre-argumente plutôt. Alors, concurrence, pour le Conseil fédéral, la concurrence est une chance. Je pense que cet argument doit être réfuté parce que aller demander à un vigneron genevois s'il exporte beaucoup de son vin, eh bien il vous dira non, malgré des efforts promotionnels, c'est quasiment impossible, ou s'il en exporte un tout petit peu, c'est une quantité tout à fait résiduelle. Donc voilà, la concurrence est tout à fait déséquilibrée parce que les vins étrangers sont meilleurs marchés, les vins genevois sont plus chers parce que produits de manière beaucoup plus scrupuleuse. Donc là, malgré l'avis du Conseil fédéral, on peut dire que c'est une forme de concurrence qui, en l'occurrence, ne fonctionne pas du tout. Voilà, Genève peine à exporter. Un autre argument du Conseil fédéral, c'est que la Suisse a signé des traités sur le climat. Et donc, même si des pays exportateurs ne le respectent pas, eh bien, la Suisse a signé, donc elle est prisonnière de ses engagements. Et puis alors une chose qui peut paraître très antipathique, les vignerons ont l'impression que la Confédération, dans ce contexte assez tendu, prend des mesures de rétorsion sous forme de contrôle des caves. Et nous aurons l'occasion de reparler de ce sujet, puisque tout récemment, des vignerons genevois se sont rebiffés contre le contrôle des caves et ont refusé aux contrôleurs l'accès à leurs comptes, à leurs registres et à leurs caves. Donc, l'affaire n'est pas close, affaire à suivre, et nous ne manquerons pas de la traiter.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide les lundis à 13h et le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
Et voici déjà la quatrième partie, toujours avec Aristide.
Alors nous allons clore cette émission par un sujet auquel vous ne vous attendez pas forcément, mais qui dénote toute la distinction de l'émission Nectar. Nous allons parler du crachat. Alors, pas n'importe quel crachat, bien entendu, parce que le crachat dans notre bonne ville de Genève est réprouvé et amendable, ça se fait pas. Un crachat est un nid de microbes. Donc, nous allons parler d'un autre crachat, c'est le crachat du vin. Évidemment, pour des dégustateurs professionnels en particulier, il est impossible de boire le vin à chaque dégustation, sous peine d'être rapidement hors combat. Alors, nous allons parler du crachat du vin dans des conditions relativement professionnelles, dirais-je. Donc, évidemment, la mauvaise manière, quand un vin est mauvais, ça serait de le cracher à la figure du vigneron, mais évidemment, c'est pas ce que nous prônons. Voilà. Alors, le crachat est considéré par les professionnels, le beau crachat même, le crachat esthétique, comme une marque de grande distinction. Et j'ai même l'impression que certains crachent pour se donner en spectacle, crachent en levant le petit doigt. Alors, je me suis renseigné auprès d'un sommelier fameux qui s'appelle Pierre-Jules Perra, qui donne dans ses cours de dégustation, en particulier, des sessions destinées au crachat. Alors, la première de ses affirmations, c'est que, bon, d'abord, le crachat est nécessaire aux professionnels, pour éviter d'être sous, évidemment, mais que le crachat n'empêche absolument rien, ne retranche absolument rien du plaisir de la dégustation. C'est-à-dire que tout le plaisir sublime du vin, c'est en bouche, c'est dans les fosses nasales, c'est sur les papilles, c'est au nez. Mais après, au moment où on déglutit, le larynx, le pharynx, etc., n'a aucune sensibilité à l'excellence d'un bon vin. Donc, voilà. À titre personnel, je ne peux pas m'empêcher de penser que le même raisonnement, on peut le tenir avec tout ce que l'on mange. Par exemple, si vous mangez du foie gras, le plaisir est en bouche, puisque la bouche est sensible au goût, le nez aux odeurs. Mais je crois que ça ne se fait pas, quand on mange du foie gras, de le mastiquer et puis de le recracher. Je crois que ça ne se fait pas, à ma connaissance. Voilà. Donc, le crachat ne fait pas l'objet d'une technique qui s'apprend vraiment. Simplement, Monsieur Perra indique qu'il faut pincer les lèvres, qu'il faut admettre un tout petit peu d'air au moment de la bouche et faire rouler le vin pendant une dizaine de secondes. Voilà. Et à ce moment, eh bien, peut intervenir le crachat. À titre personnel, de nouveau, je n'entre pas dans les vues de Monsieur Perra parce que il me semble que le vin, il faut le goûter en plusieurs fois pour prendre la mesure de ses arômes, une fois de ses tanins, une fois de son acidité, une fois de sa longueur, une fois dans l'équilibre. Et je ne pense pas qu'en 10 secondes, comme le font les dégustateurs professionnels, on fasse le tour du sujet. Je n'en crois absolument pas un mot. Voilà. Alors, depuis quelques années, le Salon des vignerons indépendants de Paris a institué un concours de crachat. Alors, si vous êtes inspiré, allez à ce... Ça fait 4 ans que ça existe. Hein. Donc, allez à Paris, au Salon des vignerons indépendants, et vous aurez sur les tables des petits seaux, comme ça. Vous examinez le vin et vous crachez, si possible, dans le seau. Donc, il s'agit d'honorer les bonnes manières. Vous ne pouvez pas cracher, comme certains font, en baissant la tête au-dessus du seau et puis en expectorant tout ce qui leur traîne dans la gorge. Ça, c'est le crachat dégoûtant, mais ça existe, on l'observe souvent. Donc, le crachat à Paris se fait à distance. Voilà, donc bienvenue à ce concours. Et puis, si vous faites partie de l'élite mondiale, vous pouvez vous rendre à Xérès, dans le sud de l'Espagne, où il existe une grande rencontre internationale des meilleurs cracheurs. Et paraît-il que ceux-ci ont été distingués pour leur... extrême précision et qu'ils sont capables de viser dans un seau qui est à 2 mètres. Si vous êtes tenté par le crachat pour éviter la saturation, faites-le avec distinction et selon le précepte. Merci à vous, à tout bientôt.